wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Ce soir, Marie-Josée Sirach et Joël Gaillot se font face à notre affiche, le Bac 68, 2, mise en scène et interprétée par Philippe Cobert, c'est à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, et Earring, 2, et mise en scène d'Amir Reza Coestanist au Théâtre de la Bastille. Ce sera suivi d'une tournée d'ailleurs, tout comme les spectacles de Philippe Cobert. Nous évoquerons aussi plus rapidement Cabaret de Poche, mise en scène collective de Camille Fiori, Olivier Rodier, Léo Mounier et Florian Carrier. Gros câlin de Romain Gary, mise en scène Hélène Maton, et Vivipar, posthume, texte et mise en scène Céline Champineau. Vers 21h20, Lucille Comeau nous entraînera dans le petit salon pour débattre avec elle d'un sujet en lien avec le champ artistique dont nous parlons aujourd'hui. Puis Lucille passera en fin d'émission un coup de fil à Dominique Pitoisé pour parler de sa mise en scène de la résistible ascension de Arturo Uy de Bertolt Brecht. Bien sûr, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition « Quoi de neuf au Moyen-Âge ?». C'est jusqu'au 6 août à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.
And so, my fellow Americans, ask not what your country...
Alors, il y a des choses étranges qui sortent de ce diffuseur ce soir. On va oublier ce son très vite et puis ouvrir à cette émission en nous rendant à l'Athénée, Théâtre Louis Jouvet, pour y retrouver Philippe Cobert qui a ses habitudes et qui tient l'affiche du théâtre fraîchement rénové avec deux spectacles en alternance. La Danse du Diable, déjà joué dans cette même salle il y a 2 ans, et puis dans beaucoup d'autres salles depuis de nombreuses années. Et puis une nouveauté, le Bac 68, j'ai bien dit une nouveauté, Philippe Cobert insiste, en expliquant que si ce spectacle s'origine dans une improvisation faite en 1980, ce qui n'est pas tout à fait neuf, puis dans une scène de Claudine et le théâtre qu'il avait créé en 2000. Cette scène a pris son autonomie pour devenir un spectacle lui tout seul l'année dernière. Un nouvel épisode donc de l'autobiographie de Philippe Cobert dont le personnage principal est sa mère, si l'extrait est calé.
Et puis c'est terminé.
Silence dans la classe s'il vous plaît derrière, silence. Eh bien monsieur, voici votre sujet, la Sibérie.
Donc, la Sibérie, pas me répéter 100 fois la Sibérie, vous me l'avez déjà dit. Oui, alors, immense, je l'ai déjà dit, oui, légèrement incurvé sur la droite, qui nous indique qu'il ne faudrait pas trop dépasser par ici dans la mesure où ceci c'est... Qu'est ceci fort ? Qu'est-ce que ceci ? Ceci c'est... Oui, ceci c'est quoi ? Ceci c'est la Pologne. Donc je disais, la Pologne. Non, fort, vous n'allez pas maintenant me répéter 100 fois la Pologne. Reprenons. Oui, reprenez. Reprenez-vous surtout. Donc, en Australie, en Italie, non plus, putain. Commencez le mot en I, le pays en I que vous m'avez dit. Le pays en I, Henri, le pays Henri que vous m'avez dit. Henri. Il m'appelle par mon prénom ou quoi ? Le pays Henri, la Sibérie. Ah oui, en Sibérie. En Sibérie, qu'est-ce qui nous intéresse, finalement, au fond ? Je n'en sais rien fort, mais j'en suis plus cessé de me poser des questions. Comprenez ? C'est vous qui passez le bac, c'est pas moi.
Que de rire. On aurait pu entendre les miens l'autre soir, notamment dans cette séquence, mais j'y viendrai. Marie-Josée Sirach, Philippe Cobert, à l'Athénée.
Alors j'avais eu le plaisir de le voir à sa création chez André Benedetto à Avignon, ce spectacle, et j'y suis retournée avec beaucoup de plaisir, et j'ai éprouvé les mêmes rires, les mêmes instants de bonheur et de jubilation du début à la fin. C'est vrai que c'est un spectacle qui qui raconte un moment très précis, c'est-à-dire c'est le passage du bac avec Ferdinand qui passe son temps, sa vie enfermée dans sa chambre et ça démarre parce que l'extrait que nous avons entendu, c'est la deuxième partie du spectacle, partie, oui. La dernière partie du spectacle. Mais Ferdinand, mais c'est un tête-à-tête avec sa mère, Claudine. Et c'est étonnant comme il se métamorphose, hein. Il devient sa mère au fur et à mesure des échanges, il alterne tous les rôles, hein, et c'est, je trouve que c'est un très beau portrait de sa mère, un grand hommage, cette femme qui est une bourgeoise de la bonne société marseillaise, qui vit dans le confort total, mais qui est totalement délurée, qui parle avec, qui a un vocabulaire extrêmement étonnant pour quelqu'un de cette condition-là, qui ose employer des gros mots, qui se lâche en permanence, dans l'intimité, évidemment. Mmh. Et qui va, évidemment, à la messe tous les dimanches, et qui a une vue, qui a un point de vue sur tout. Sur la politique, sur le syndicat, sur l'église, sur les prêtres ouvriers. Et il y a ce tête-à-tête avec son fils, où il y a ce dialogue entre deux. Enfin, lui répond à peine, puisqu'elle monopolise la parole. Et je trouve que ce portrait-là est très touchant, parce que effectivement, il aurait pu être oppressant, l'empêcher de devenir ce qu'il est. Et finalement, on a le sentiment que cette femme-là, que sa mère, va lui permettre d'être l'acteur qu'il est aujourd'hui. Et ensuite, mais on y reviendra plus tard, il y a tout la force qu'il a quand même, c'est un acteur extraordinaire, et cette façon qu'il a de jouer des temporalités, de s'adresser à la salle, et puis en coulisses à la bonne, de jouer sur tous les tableaux, je suis totalement admirative. Et puis qu'est-ce que c'est drôle quand même, on rit, mais c'est pas un rire compliqué, il va pas chercher dans les jeux de mots, dans les gags. Il est dans, il raconte cette histoire par le menu détail. C'est-à-dire, on est tous passés par là. On est à J- quelques jours, enfin quelques semaines du bac, et tout d'un coup, c'est l'angoisse qui monte. Et se rajoute à ça ce moment historique important, c'est 68, c'est-à-dire que tout part à volo, et il va se retrouver à passer un bac très très allégé, heureusement pour lui d'ailleurs, parce que je ne suis pas certaine, vu son oral de Géo, je ne suis pas certaine qu'il l'aurait eu au la main, mais enfin bon, là, voilà, je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite.
Joël Gaillot, le bac 68.
Alors moi j'ai aimé le spectacle à partir de la dernière partie, effectivement. C'est-à-dire à partir du moment où il monte dans la Diane avec sa mère, où sa mère prend la Diane pour l'amener passer cet oral de géographie, c'est irrésistible, hein, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est vrai qu'on écoute ça et on peut pas s'empêcher de rire de la même manière qu'on rit dans la salle de l'Athénée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette dernière partie. Je peux pas dire que j'ai fonctionné aussi bien que vous, Marie-Josée, au portrait de la mère, même si j'ai rien à redire à cette façon qu'il a de croquer sa mère ou de l'attraper et de la faire apparaître devant nous. C'est pas tellement ça, mais pour le coup, moi, ça m'a laissé moins, ça m'a moins attrapé, ça m'a moins fait rire, ça m'a même assez peu fait rire, je dois dire. J'ai essayé de comprendre pourquoi et je me suis dit que c'est peut-être parce que c'est sa mère justement et que tout à coup il y a une distance entre lui et cette femme qui s'appelle Claudine dans le spectacle, puisque lui s'appelle Ferdinand. Il y a quand même une distance qui fait que même s'il y a un luxe de détails, même si il donne à cette femme une abondance de paroles, elle est très volubile, effectivement, vous le disiez, il ne parle quasiment pas, il n'arrive pas à la choper comme il s'attrape lui-même dans la dernière partie, où là, on voit naître l'acteur. C'est-à-dire que dans cette confrontation avec le professeur, l'examinateur de géographie, où il se met à raconter absolument n'importe quoi, on en a eu un bref aperçu, mais c'est hilarant, parce qu'il peut partir,
très loin, ouais.
Ça peut aller très loin, et ça pourrait durer 3 heures, on ne s'en lasserait pas. Là, on voit apparaître l'acteur, hors comme son désir, depuis le début, et c'est ce qu'il dit à sa mère, quand elle lui demande de sortir de son lit pour réviser, son désir à lui, c'est d'être acteur. On voit très bien la jeunesse, c'est né à ce moment-là, et le Cobert battleur, le Cobert showman, le Cobert capable d'improviser, on a vraiment le sentiment que c'est à ce moment-là, de l'oral de Géo en 68, qu'il est né. Donc du coup, pour moi, je dois dire que les deux premiers tiers du spectacle se sont passés, non pas à attendre, parce que je finissais par désespérer un peu que quelque chose arrive qui me mette dans cette hilarité où je voyais à peu près les trois quarts de la salle être. Ça a fini par arriver, j'en suis heureuse, mais je me suis dit quel dommage que les deux tiers n'aient pas été, pour moi, hein, du même acabit, parce que là, effectivement, je serais dans le même état et d'admiration et de fascination que vous, et je peux pas dire que je le sois, c'est pas vrai.
Bon, moi je suis quand même très admiratif. Honnêtement, je savais pas trop à quoi m'attendre en allant voir ce spectacle, mais c'est vrai que la principale raison du plaisir que j'ai eu, c'est que Philippe Cobert est une bête de scène, ce qui n'est pas tout à fait une nouveauté, mais enfin, ça fait longtemps que ça dure et c'est quand même toujours le cas. Et on sent qu'effectivement, qu'il jouit pleinement sur un plateau, que c'est là que réside sa raison d'être, que c'est là qu'existe vraiment la vie pour lui, même s'il parle de différents types de jouissances en dehors de celle du plateau, mais c'est un seul en scène qui est presque comme un stand-up, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, il tient d'un bout à l'autre, sans véritable temps mort. Alors, moi, je suis un tout petit peu partagé. Il y a un moment qui me semble être plus une baisse de niveau quand la mère s'adresse à la bonne. Elle appelle la bonne, elle se reprend. Donc, il faut dire que c'est, enfin, cherche le mot qui conviendrait. Parce que moi, j'étais quand même plutôt pris tout de suite par cette histoire de ce jeune homme velléitaire, parce qu'il veut être comédien là quand débute ce spectacle. Mais sa mère lui rappelle qu'avant, il voulait être footballeur, avant, il voulait être coureur cycliste, avant, il voulait être autre chose, chanteur. Il voulait être Johnny Hallyday, qui ne se prive pas d'imiter. Très bien, toujours Philippe Cobert. Donc, il y a cette hésitation-là propre à la jeunesse. Et puis, il y a une deuxième partie quand même très étonnante. J'ai plus bien compris tout à fait chez qui ils allaient, mais en tout cas chez quelqu'un qui collectionne des papillons, qui a plusieurs dizaines de millions de papillons épinglés à ses murs, et il y a cette scène cauchemardesque où effectivement le jeune Ferdinand se rend compte, oui, je pense que c'est plus un cauchemar, que tous ces papillons sont vivants, accrochés, épinglés vivants sur les murs de ce fou. Alors il y a des moments où la tension flotte, alors j'ai sans doute raté une transition, je ne sais plus comment on est arrivé dans cette scène, vous le savez vous Marie-Josée.
Elle
est terrible, parce que
Elle va tenter de soudoyer le professeur principal de Ferdinand,
pour qu'il tombe sur le bon examinateur,
pour qu'il puisse tomber sur lui et lui donner son bac en douce.
C'est vrai, parce que bon, là, mais je trouve que cette séquence, tout d'un coup, d'horreur en plein milieu de cette soirée de rire, m'a tout à fait saisi, parce qu'elle fait quand même écho à une violence de la société de cette époque-là, une société d'oppression. C'est quand même CRSSS. On est dans cette époque-là, et je sens qu'il y avait là des relents de l'histoire au présent qui sont très troublants. Enfin, c'est vraiment une partie qui m'a tout à fait déconcerté, mais qui a fait forte impression. Bon, après, sur l'oral de Géo, enfin, c'est histoire Géo, mais on n'a que la partie géographie, donc sur la Sibérie, là, je dois dire que c'est absolument irrésistible. On est tous les trois convaincus, mais vraiment, on ne l'a pas dit non plus, pour toute scénographie, il y a une chaise sur le plateau du théâtre de l'Athénée. Trois jeux de lumière, enfin, c'est vraiment pas là-dessus que ça se joue, c'est vraiment sur Philippe Cobert, d'abord habillé en Claudine à sa maman, et puis voilà, il suffit d'enlever un fichu, de remettre des mocassins, et puis on passe de l'examinateur à l'examiné. C'est vraiment plein de grandes maîtrises, et à part cette toute petite baisse de régime pour moi quand bonne ou femme de ménage apparaît, vraiment j'ai trouvé ça d'une intensité très, très jouissive. Mais vous n'avez pas été sensible à ce portrait de mère?
Non, mais moi je regrette que en fait, en vous écoutant, je comprends là où est finalement ma non-adhésion. C'est que j'ai aimé le spectacle quand c'est lui. C'est-à-dire quand c'est Ferdinand qui a la parole, et je pense que s'il avait moins muselé son personnage dans la première partie face à sa mère, j'aurais certainement été beaucoup plus sensible, parce que je trouve que c'est là qu'il se révèle et qu'il éclate littéralement, et que ça devient absolument, on ne peut plus le contrôler.
C'est la construction du spectacle aussi, ça tend vers ça,
oui,
vers ce moment-là.
Mais quand vous ne l'éprouvez pas pendant la première heure, ou disons les 45 premières minutes, bon voilà, vous faites comme dans tous les spectacles, vous commencez à quitter un peu la représentation, au point que, voilà, moi, cette scène des papillons, je l'avais oubliée. Pour moi, le spectacle démarre vraiment, du point de vue de l'efficacité et de l'impact, il démarre à la scène de la Diane, c'est-à-dire quand la mère monte dans la Diane pour se précipiter dans un champ d'olivier. Et pour moi, vraiment, la scène la plus cocasse et que je trouve inénarrable, c'est la scène où il est en haut et il vient de comprendre que ce n'est pas le bon examinateur et que ça n'a pas marché, la tentative de la mère, et que du haut de la salle, il regarde sa mère qui est en bas et muettement, il lui dit c'est pas le bon sujet, je sais plus exactement ce qu'il lui dit. Et là, il prononce pas une phrase, tout le monde comprend ce qu'il est en train de dire.
Il fait la mère,
il a tel désarroi sur le visage.
Il fait Claudine et Ferdinand, et on a le dialogue.
Il fait les deux. Il est, non, mais il est formidable. Moi, je mets pas du tout en question le talent de Philippe Cobert, qui par moments est d'une, d'ailleurs, c'est très étonnant quand il revient en costard cravate, enfin, sans cravate d'ailleurs, en costard gris avec une chemise blanche. Il est magnifique. On dirait Georges Clooney.
Un jeune homme, hein.
Par moments, il est, ah oui, il dit à plusieurs reprises qu'il a 66 ans. Franchement, il ne les fait pas, mais c'est pas du tout son talent que je remets en cause. C'est quelque chose dans le, ouais, dans, oui, dans le, dans la non distribution de lui-même dans cette première partie qui me dérange, parce que je trouve que la mère, peut-être parce que c'est sa mère, ça la met à distance, ça nous met un petit peu à distance. Il la noie dans un trop plein de détails, il me semble, et ça perd en impact.
Moi, il me semble que, quand même, sur la mer, s'il n'y avait pas la mer, il n'y aurait pas le Ferdinand devant cet examinateur.
C'est pas ce que je dis, c'est-à-dire que un peu plus de Ferdinand
quand,
au début.
Quand vous dites qu'il raconte n'importe quoi à l'examinateur, mais il raconte n'importe quoi parce que sa mère elle-même raconte n'importe quoi. Elle a un avis sur tout, elle dit n'importe quoi sur toute la politique,
elle
sur la société.
Elle est atteinte de paraphrasie.
Elle est atteinte de paraphrasie, elle n'arrive pas à prononcer Mouchkinine, elle dit, au lieu de dire Mouchkine, elle parle des goulages. À la place des goulags, et c'est ce qui lui vaudra peut-être.
Alors Solzhenitsyn,
c'est imprononçable, mais elle lui en parle, et lui il a tout ça en tête, c'est-à-dire qu'en même temps lui veut être acteur, et les références de sa mère, cette bourgeoise qui vit quand même dans un endroit assez invraisemblable, qui sort très peu, qui a une vie sociale qu'on devine pas très intéressante, mais qui est quand même au courant de tout, mais qui mélange tout. Et cette espèce de volubilité, cette façon de parler, de s'adresser à sa bonne, qu'elle appelle sa femme de ménage, parce qu'évidemment, il ne faut pas que je... Non, il n'y a pas de différence de classe. Enfin, bref, elle mélange tout. Et pour lui, c'est un modèle. Enfin, c'est un modèle de personnage fantastique. Il y a un côté libérateur quand il passe son bac. Finalement, ce background qu'il a grâce à elle, ça lui permet de devenir ce qu'il est. Moi, je le trouve sévère, parce que je trouve qu'il est important quand même son... cette partie-là.
Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'il élimine la mère pour être là tout le temps. C'est absolument pas ce que je dis. J'entends très bien que s'il apparaît comme acteur dans cette dernière partie et s'il devient acteur, c'est certainement parce qu'il y a eu cette mère et qu'elle a été ce qu'elle a été et qu'elle lui a parlé comme elle lui a parlé et que ça a couché de ce qu'il est devenu. C'est pas ça que je remets en question. Simplement, je crois que quand on va voir un spectacle de Cobert, avec tout le mythe aussi autour de Philippe Cobert qui date maintenant d'assez longtemps, c'est Mouchkine, c'est Avignon, c'est la performance à Boulbon au Festival d'Avignon. On s'attend effectivement à un rire constant, permanent, et que moi je ne l'ai pas rencontré. Donc je cherche à comprendre les raisons de ce non-rendez-vous qui a fini par avoir lieu, mais qui n'a pas eu lieu tout de suite. Et voilà, je pense que les avoir trouvées dans cette explication-là, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je ne conteste pas du tout la place de la mère. Absolument pas. Je pense qu'il est plus fort quand il se saisit lui-même jeune que quand il saisit sa mère sur ce registre-là du comique.
Mais je pense que quand même tout ce qui se dit, tout ce que dit la mère, ça raconte quand même bien cette France d'avant mai 68. C'est-à-dire, c'est Marseille, c'est les docks, avec ce prêtre ouvrier qui va se tuer bêtement sur une grue, c'est les prêtres ouvriers, le Vatican, et donc là, elle se mélange complètement, mais les prêtres ouvriers pullulent, donc elle en voit partout. Ils sont partout, elle est complètement encerclée. C'est une France, on sent qu'il y a des tensions, et ses apartés avec sa femme de ménage, ça permet aussi d'avoir chaque fois des éclairages sur l'actualité politique en France à ce moment-là. Il aurait pu mettre un poste de radio. Non, il met sa mère parce qu'elle commente. Donc c'est encore plus drôle parce que le commentaire introduit un décalage avec les mots qu'elle prononce mal, ces dérapages linguistiques. Enfin voilà, ça prend une proportion complètement épique. Enfin, mai 68 avant mai 68 par sa mère, c'est assez drôle.
Et puis Philippe Cobert prend plaisir aussi à s'amuser avec les salles à demander aux gens
ceux qui l'ont vu
depuis la première fois d'acheter le DVD, de dire dire aux autres ce qui se passe. Et de,
oh, bon, il a raison.
Il a raison. Philippe Cobert prend beaucoup de plaisir sur la scène de l'Athénée Théâtre Louis Jouvet en ce moment. Le Bac 68, c'est en alternance avec la Danse du Diable, hein, ceux qui connaissent des représentations de et avec Philippe Cobert, donc Athénée Théâtre Louis Jouvet jusqu'au 19 novembre. Il faut signaler aussi qu'il y a au même moment l'Asticot de Shakespeare de et avec Clémence Massard, complice de Philippe Cobert depuis ben, très longtemps. Là aussi, tout cela c'est jusqu'au 19 novembre, puis en tournée. Quelques dates pour dire que Philippe Cobert sera à Saint-Denis de la Réunion au mois de décembre, au mois de janvier il sera à Salon de Provence, à Toulon, à Marseille, à Val-de-Reuil, en février à Bordeaux, à Villeneuve-sur-Lot, à Périgueux, à Sébazat, à Courbevoie, à Colombes et le 3 mars à Luxembourg.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Nous parlerons tout à l'heure de Amir Reza Kohestani, mais aussi de la compagnie Saseo, d'Hélène Maton, de Céline Champineau. Avant cela, c'est Lucille Como que nous suivons dans le petit salon. Bonsoir, chère Lucine.
Bonsoir.
Ce soir, une double question. À quoi et à qui sert le Festival d'automne ?
À qui surtout, en fait. Il y a deux semaines, un jeune artiste qui s'appelle Thibaut Croisy a inauguré au Théâtre de Vanves, pas au Festival justement, une sorte de rétrospective de ses spectacles sous le nom Festival d'automne à Croisy. Il avait même détourné l'affiche du festival officiel utilisant la même police et la même couleur. Au-delà de la blague, Thibaut Croisy entendait dire quelque chose du festival et de ce qu'il fait aux artistes, qu'il explicite ainsi sur son programme. C'est dur d'exister au mois d'octobre à l'heure où le Festival d'automne bat son plein. Alors qu'est-ce donc que ce Festival d'automne ? Il a été créé en 72 par Michel Guy, qui était alors secrétaire d'État à la culture sous Georges Pompidou, pour favoriser la création dans toutes les disciplines des arts vivants. Depuis lors, le festival accueille en Ile-de-France des spectacles du monde entier, entre septembre et décembre, allant parfois même jusqu'à rogner sur le mois de janvier. Grâce au Festival d'automne, on a découvert en France des artistes comme Bob Wilson, Romeo Castellucci, Carmelo Bene ou encore Mercy Cunningham. Cette dimension internationale subsiste aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment une spécificité du Festival d'automne, tant les spectacles tournent aujourd'hui dans le monde entier et tout au long de l'année. On peut aussi se poser des questions sur la dimension créatrice du Festival d'automne. Prenons l'édition de cette année. Comme depuis quelques temps, trois figures sont à l'honneur. Alors là, il y a Ramon Lascano, qui est un compositeur basque, que en effet la plupart des spectateurs français découvrent, je pense. Il y a Lucinda Childs et Christiane Lupa. Je ne ferai pas de jeunisme, mais considérons tout de même que ces deux derniers artistes ne sont pas des jeunes créateurs. On les voit en France depuis des dizaines d'années. Ils n'ont pas besoin du cadre du festival pour créer et pour être joué dans des salles du monde entier. Dans le cas de Lucinda Childs, on constate même que le portrait est principalement d'ordre patrimonial, puisque parmi les œuvres qu'on a pu voir et qu'on va voir, point de création, son œuvre la plus récente est La Grande Fugue. Elle sera créée en fait avant le Festival d'automne, puisque ce sera à l'Opéra de Lyon dans quelques jours. Dans le même ordre d'idées, le festival qui revendique occuper des lieux variés et atypiques n'est pas si mobile et adaptable. Quand on regarde le programme, on se rend compte que les événements qu'il propose ont tous lieu en fait dans des espaces culturels reconnus comme tels, théâtre, centre de danse, galerie et musée de la région. Le Festival d'automne est un lieu de financement important pour les arts vivants avec des fonds de l'État, de la région, de la mairie et de mécènes aussi généreux que Pierre Berger. Ne pourrait-on pas imaginer que ce festival revienne à son ambition première de découverte et d'aide aux jeunes artistes ?
Une bonne question. Il faut quand même que je dise à Olivia Gesbert de rentrer chez elle parce qu'il est trop tard là. Il faut que vous soyez à l'heure pour demain, pour la grande table à midi. Vous avez vu l'heure ? Rentrez chez vous, Olivia, allez manger quelque chose. Pardon, on se fait coucou par la vitre. Mais on revient aux questions essentielles. À quoi et à qui sert le Festival d'automne ? Vous avez planché, mesdames, sur cette question-là, Joëlle Gaillot ?
Oui, parce que j'étais assez étonnée de la question, pour tout vous dire, de la double question à quoi et à qui. J'avoue que je me suis un peu interrogée sur le pourquoi, qui faisait que Lucille avait envie qu'on débatte de ça, parce que pour moi, il ne fait pas de doute que le festival sert à des choses, à l'art et à des gens, c'est-à-dire à des spectateurs. Alors, je pense que c'est pas utile de se livrer. On pourrait le faire, se livrer un name dropping pour citer tous les artistes qui ont été découverts par le Festival d'automne, à commencer par Bob Wilson, qui était là dès la première édition. On peut aussi passer par les jeunes. Vous dites qu'il n'y a pas de jeunes, mais enfin bon, Sylvain Creusevaux, Jonathan Châtel, Julie Deliquet, Julien Gostin, ils ne sont pas bien vieux non plus. Ils ont moins de 30 ans pour la plupart d'entre eux. Ont été programmés par le Festival d'automne. On peut dire aussi que le Festival d'automne est un festival qui, depuis 72, à sa façon, éclaire la ville de Paris et au-delà de la ville de Paris, effectivement, la couronne parisienne. Que contrairement à ce que vous dites, il y a eu des lieux qui ont été trouvés par le Festival d'automne. Il y a eu des spectacles à la Salpêtrière, il y en a eu d'autres à la Sorbonne, il y en a eu dans différentes chapelles, ou une chapelle en tout cas parisienne. Donc moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que automne est un festival qui permet aux spectateurs à la fois parisiens et de la région parisienne, et pas que, parce que je crois qu'il est aussi très fréquenté par bien au-delà du cercle de la métropole, de découvrir et de croiser aussi des expériences. C'est un festival extrêmement audacieux, où il y a des prises de risques, où il y a des tentatives, où on a vu de manière récurrente des gens comme Romeo Castellucci. Je veux pas entrer dans ce name dropping là, ça n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une fidélité du festival à certains grands artistes, que ce festival les a imposés aussi sur les scènes, que certes, ils ne sont pas à l'origine, mais souvent, ils attrapent les trains en marche et ils les attrapent assez rapidement. Et que voilà, à quoi et à qui sert le Festival d'automne, pour moi, c'est poser la même question que à quoi et à qui sert l'art. C'est je crois, quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous allez me dire, c'est de l'entre-soi ou c'est élitiste. Au niveau des tarifs du Festival d'automne, j'ai un peu regardé, c'est quand même des tarifs qui sont par rapport au théâtre privé tout à fait abordables avec des formules d'abonnement. Donc c'est quand même, de ce point de vue-là, un festival qui reste un peu plus populaire que, je sais pas, le théâtre de la Michaudière ou le Petit Saint-Martin ou d'autres théâtres parisiens privés où on voit de grandes figures people et connues du plus grand nombre. Et je ne crois pas qu'à ce point-là, les jeunes artistes soient délaissés par le Festival d'automne.
Les jeunes dont vous parlez, ils sont déjà bien installés. Je veux dire, Creusevaux, Gosselin, pour le coup, ils n'ont pas nécessairement besoin du Festival d'automne pour être montrés.
Mais au début, il n'était pas tant que ça. C'était son deuxième spectacle. C'était pas un cinquième spectacle. Marie Collin est quelqu'un qui a plutôt tendance à aller chercher des spectacles sur lesquels elle sait qu'elle va prendre des risques. Et alors, bon, puisque vous ouvrez cette question-là, moi, je vous renvoie à un livre qui vient de sortir. Enfin, je renvoie les auditeurs surtout, hein, parce que ça peut les intéresser. Un livre qui vient de sortir, qui a été fait par Antoine Debecq, à qui on doit déjà une histoire du Festival d'Avignon. Il vient de publier chez Gallimard Esprit d'automne, histoire d'un festival. C'est un livre absolument passionnant qui se lit comme un roman et dans lequel on comprend la raison d'être et la pertinence toujours actuelle de ce festival qui ne s'est pas dénaturé, qui n'a pas perdu son âme et qui est toujours aussi exigeant, en tout cas à mon sens.
Marie-Josée Sirache.
Effectivement, la question mérite presque une thèse comme réponse, donc c'est très vaste. J'ai moi-même été surprise, mais tout simplement parce que je ne me suis pas posé la question. Alors, en y réfléchissant un petit peu, je me suis dit qu'effectivement, le Festival d'automne, c'est une vitrine. C'est un label qu'on pose en bas d'un spectacle et qui certifie de la qualité, en tout cas. Moi, ce qui me surprend, c'est la place de plus en plus importante qu'il occupe quand même dans l'espace théâtral entre le mois de septembre et décembre. Et effectivement, parfois, il déborde en janvier. Je me dis, hormis le Festival d'automne, point de salut, pourtant, il y a des choses à côté qui sont. Du coup, elles sont un petit peu cachées. On les voit moins.
Sous-exposées.
Voilà. En tout cas, elles ne bénéficient pas de la force de frappe que représente le Festival d'automne, qui a, comme vous le rappeliez, des moyens quand même conséquents. Voilà. Donc, pour moi, c'est une énorme machine qui, effectivement, promeut des artistes connus, reconnus, des jeunes artistes. Je ne suis pas certaine que... quand Michel Guy met ça en place, ça répondait vraiment à un vide. Il y avait une nécessité d'aller, de permettre au public francilien et même français, parce que, enfin, peut-être même on bougeait moins quand même à l'époque. En tout cas, francilien, de découvrir des artistes qui venaient d'ailleurs, qu'on ne connaissait pas. Bon, aujourd'hui, il est vrai que quand même les spectacles tournent davantage, que moi je suis allée au TGP voir Le Suicidé, mis en scène par Bellorini, avec le Berliner, c'est pas Festival d'automne, hein, je crois pas.
Je ne sais pas.
Non, je pense pas. Mais... En tout cas, j'ai pas vu estampillé Festival d'automne.
Comme quoi, ils sont pas partout.
Et c'est magnifique. Mais oui, mais du coup, on en parle moins. Enfin, voilà. Alors, il y a comme un côté concurrence, pas déloyale, mais enfin bon, c'est quand même une grande machine. Hein.
C'est une grande machine, alors qu'on aime beaucoup. Hein, on parle de beaucoup de spectacles du Festival d'automne. On va parler de Earring qui est estampillé, hein, qui a le label. Oui. C'est vrai qu'en fait, je crois que la première fois que vous m'avez proposé ce sujet, Lucille, c'était c'est quoi le Festival d'automne, non?
Je vous ai dit,
oui,
bon. Non, mais en fait,
et
ça
en fait,
va
je
avec,
crois que c'est ça la vraie
quelle
question.
Quelle est la cohérence?
Vous aviez raison. C'est quoi aujourd'hui
la
le Festival d'automne?
Politique de ce festival, quand on regarde le programme, en effet, on comprend très bien les grands principes qui étaient des principes de 72. Comme vous le disiez, c'est-à-dire montrer des choses qu'on ne voyait pas à ce moment-là en France et montrer des choses interdisciplinaires à ce moment-là, c'était pas évident l'interdisciplinarité dans les arts vivants. Là, maintenant que tout ça est un peu installé, c'est vrai que la cohérence à la fois esthétique et politique de cette énorme machine qui draine beaucoup d'argent et qui met en valeur beaucoup de gens au détriment d'autres, je pense que ça c'est vrai. On la comprend pas bien.
Je crois qu'il y a un problème de lisibilité et en fait, je pense que c'est une question qui intéresse.
Il y a presque trop de choses en fait, peut-être dedans.
Surtout les professionnels et je suis pas sûr que les spectateurs de tous les théâtres fassent vraiment attention à ce qui est Festival d'automne ou pas Festival d'automne.
Mais moi je sais pas, on pourrait se livrer à une expérience autant de la place parisienne et de la couronne parisienne, tout ce qui n'est pas Festival d'automne. Vous aurez cette année quand même 3 spectacles de Christiane Loupa grâce au Festival d'automne. Si je le répète,
on les a déjà
mais pourquoi non, pas les Parisiens, Marie-Josée, pas les Parisiens, place des Héros. Oui, je ne suis pas sûre que ça ait été vu à Paris.
Oui, enfin, il allait tourner quand même.
Ça a tourné, mais tout le monde ne va pas au Festival d'Avignon non plus. Donc c'est un festival effectivement qui permet ses gros plans. Il y a eu Castellucci qui a fait l'objet d'un gros plan. Il y aura d'autres artistes qui feront l'objet de gros plans. Puis ça, c'est aussi la nouvelle politique
oui,
du Festival d'automne depuis que Emmanuel de Mercy-Motta a succédé à Alain Krombeck. Je suis un peu étonnée parce que
il ne s'agit pas de faire le procès du Festival d'automne.
Non, mais c'est quand même un peu ça qui est fait. C'est un petit peu ça que j'entends.
Tout, non,
et je pense que
pas
les jeunes
tout,
artistes, alors pour le coup, les
pas
très jeunes
tout,
artistes, comme Thibaut Croisi, ont le temps d'y accéder au Festival d'automne. Ils ont le temps. C'est pas non plus la peine d'aller trop vite, parce qu'on a vu à plusieurs reprises des jeunes artistes être précipités trop vite dans les grandes institutions et ça leur a fait beaucoup de mal. Il faut le temps de passer par des petites salles comme Vanves où était Thibaut Croisi, comme l'Échangeur, comme d'autres salles. Il leur faut ce temps-là. Tout le monde n'a pas accédé au Festival d'automne si rapidement. Jérôme Bell, il n'est pas rentré si jeune que ça dans le Festival d'automne et je crois que depuis c'est un
dernier
c'est
mot,
un
Lucille
familier.
Comeau, parce
non, mais
tard.
Juste en l'occurrence, je ne pense pas que Thibaut Croisi soit dans une logique justement de jalousie par rapport à ce festival-là. Au contraire, il montre qu'il existe des choses en dehors de ce festival et qu'on les voit moins parce que ce label
mais en l'occurrence
il
se sert du label
là.
Pour attirer les gens
oui, bien
puisqu'il
sûr.
Détourne oui, bah. L'affiche et il détourne ça, le nom donc il est bien content qu'il existe oui. Le Festival d'automne puisque ça lui sert à lui à faire sa propre pub. Après, j'ai pas vu son spectacle, moi j'ai vu un précédent spectacle de lui avant justement il y a 1 ou 2 ans. Je ne pense pas qu'il soit, enfin de ce que j'avais vu il y a 2 ans, c'est pas prêt pour être dans le Festival d'automne.
Tant est
qu'on considère qu'automne c'est effectivement un certain niveau d'exigence et je crois que ça l'est.
Non, mais vous avez.
Mais moi, je suis pas l'avocate du Festival d'automne.
Ouais,
hein,
c'était pas un procès non plus, mais vous avez été une très belle avocate, Joëlle Gayot.
Pourquoi ?
Plus de temps, plus beaucoup de temps, Marie-Josée Sirage, parce que vous aviez 2 coups de cœur. Il faut en choisir un. Plouf, plouf, plouf.
Non,
gros câlin
deux...
ou cabaret de poche ?
Bah, les deux, parce qu'en fait,
non, les deux
je ne parlerai pas des spectacles, même s'ils sont magnifiques. C'est-à-dire que le cabaret de poche, comme Gros câlin d'Émile Ajat, le premier mis en scène par la compagnie Sasséo, qui est une compagnie de cirque, et Gros câlin mis en scène par Hélène Maton, j'ai découvert ces spectacles dans un lieu incroyable, au fin fond du Gers, et c'est ça dont j'avais envie
bien.
De parler.
Quel est ce lieu
C'est du Gers.
C'est du Gers, c'est de Cologne dans le Gers. Hélène Maton a décidé de construire un théâtre recyclable, c'est-à-dire qu'elle a fait le tour des villages, elle a ouvert des ateliers, un chantier, ils ont construit un théâtre avec des bottes de paille, avec du fil à saucisson, avec des cagettes, et le dernier mois, donc tout ça, ça a duré tout l'été, et puis en septembre-octobre, elle a accueilli des petits spectacles comme ça, donc ils se jouaient dans un petit pré, la salle, comment comment ça s'appelle. Le plateau était en aluminium, c'était sous un sol pleureur, c'était magnifique. Moi, j'ai découvert cette idée-là de faire quelque chose. Alors, pour le coup, on est loin du Festival d'automne. C'est une toute petite économie. C'est la volonté d'inscrire le théâtre au plus près des gens, sans discours formaté, mais avec le désir de partager des moments d'émotion. Et les deux spectacles que j'ai vus étaient merveilleux. Et c'était quelque chose de totalement invraisemblable, improbable, et ça marche. Et j'avais des paysans à côté de moi, et j'avais des enseignants à la retraite, et des jeunes gens qui, parce qu'il y a quand même des jeunes gens qui habitent dans ces campagnes, et c'était formidable. Et je voulais juste signaler qu'il y avait en même temps un petit restaurant associatif, le comptoir des Colibris, voilà, il faut y aller. C'est bien.
Colonne d'Angers.
Comment ? C'est Pierre Rabhi qui
est le tien ? Non, c'est les gens du coin.
Théâtre de la Bastille, Vivipare posthume.
Oui, en deux mots. Alors, ce n'est pas un spectacle qui est au Festival d'automne, que c'est Céline Champineau qui est une jeune artiste qui le produit. C'est jusqu'au 19 octobre. Juste deux mots pour dire que voilà, je pense que la nouvelle génération dont fait partie Thibaut Croisy, elle est capable de faire ce que fait Céline Champineau, c'est-à-dire de s'affranchir complètement de codes théâtraux, de conventions, de choses qu'on pense qu'il faut faire au théâtre. C'est un spectacle d'une très, très grande fantaisie. On voit apparaître les figures de David Bowie, de Charles Bukowski, de Judy Garland, où les femmes deviennent des hommes, où les hommes sont des femmes, où les hommes ensemble ont des enfants, où les femmes ensemble ont des enfants, où on s'échange des enfants, on les tue, on meurt, on ressuscite. Enfin, c'est d'un imaginaire totalement débridé, c'est totalement loufoque, assez foutraque par moments, mais je trouve que ça fait beaucoup de bien de voir ça, parce que ça, c'est aussi un des avenirs possibles du théâtre français, et peut-être que dans 5 ans, ils seront au Festival d'automne. Je ne sais pas s'il faut leur souhaiter, mais en tout cas, ils ne s'en plaignent pas pour l'instant de ne pas y être.
Texte et mise en scène Céline Champineau, c'est que jusqu'à mercredi au Théâtre de la Bastille,
mais après, il y a une tournée dont je n'ai pas les dates, malheureusement.
Et ben on les mettra sur le site internet, bien sûr.
Petite.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous allons parler à présent du Festival d'automne, qui nous tient vraiment à cœur. En parlant d'un spectacle qu'on a vu au Festival d'Avignon, qui est un festival que nous aimons aussi. Grande tournée en France pour Earring, actuellement à l'affiche du Théâtre de la Bastille à Paris. Amir Reza Kohestania en signe le texte, la mise en scène et la scénographie. D'abord intéressé par le cinéma et la littérature, c'est un artiste iranien qui a été très marqué par le regretté Abbas Kiarostami. C'est d'ailleurs un film de celui-ci, Devoir du soir, qui lui a inspiré l'écriture de Earring. Le point de départ de la pièce, c'est la convocation de deux jeunes filles dans le bureau de la surveillante, étudiante elle aussi, à qui on a dit qu'un homme s'était introduit dans leur dortoir. Entre elles va donc se jouer un rapport de pouvoir basé sur la peur.
ولی واقعا صداتون میشه این مشکل خواهی تو دیگه قشنگ حرف میزدی اولین بارم گفتی گفتم باشم تلفنی حرف میزدم
نه صدای اسپیکر نه
پس جرما بود
بوی مردم میمان
بسیم این بگه کالا به هم صد بچه من طلبکار باشم این طلبکاره
Il y a déjà la beauté de cette langue persane. On évoquait il y a peu de temps Diego Rodriguez. Est-ce qu'on perdait du portugais au français en allant revoir Antoine et Cléopâtre? En tout cas, là, c'est persan surtitré pour ce spectacle d'Amar Reza Kohestani qui commence, Joël Gaillot.
J'ai eu un problème avec cette représentation qui m'a embarrassée. C'est-à-dire qu'à la fois, je peux pas en dire vraiment du mal. Le projet de Amir Reza Kohestani est intéressant. C'est effectivement ces deux jeunes femmes. L'une est apparemment prise sur le fait d'avoir fait rentrer un garçon l'internat, au dortoir. Ça n'est pas si sûr. Une autre l'a peut-être dénoncé. Donc il va y avoir tout un système d'interrogation, de questionnaires, d'interrogatoires même qui va se déployer avec des contrôles contrepoints, des variations, ça va revenir en boucle. On ne sait jamais vraiment ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, quelle est la réalité, quel est le degré de fiction, quel est le degré de mensonge, qui sont les coupables, qui sont les victimes. Bon, et évidemment, bon, ces jeunes femmes sont voilées et tout ça semble porter sur l'émancipation de la femme iranienne. Ça a l'air d'être ça de prime abord le sujet. Puis j'ai lu le programme du Théâtre de la Bastille et j'ai vu le très long texte que Kohestani a écrit sur le fait de créer sous la censure quand on est artiste en Iran. Et donc il explique que là-bas, effectivement, il y a des comités de censure qui viennent quand les créateurs font leurs propositions pour vérifier que rien ne va nuire au régime. Et que ça implique de faire des pièces qui passent par ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être frontal là-bas, on ne peut pas être dans l'information, on ne peut pas dénoncer ce qui se passe. On est obligé de faire appel à l'imaginaire et à la capacité de représentation du spectateur. Et j'ai repensé à ce titre du spectacle, Hearing. Écoute, audition, comment entendre? Et je me suis dit, en fait, il est là, son sujet. Son sujet, c'est ça, c'est la censure. C'est comment on arrive à feindre avec ça, comment on arrive à louvoyer. Et je crois que c'est ça qui m'a embarrassée dans le spectacle, qui ne m'a pas touchée, qui m'a même parfois un petit peu, pas déplu, mais gênée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu le sentiment... Vous allez dire que je coupe un peu les cheveux en quatre, mais tant pis. Qu'il se sert.
On a l'habitude,
qu'il se sert. Non, mais j'ai eu le sentiment qu'il se servait d'un alibi qui est l'émancipation de la femme pour ne pas du tout traiter le sujet.
Mais je ne pense pas que ce soit son sujet du tout.
Et moi, ça me gêne parce que je pense que c'est un sujet en soi, l'émancipation de la femme.
C'est un sujet, mais ce n'est pas le sien, je pense pas.
Ça m'embête qu'ils prennent ce sujet-là pour traiter d'un autre sujet parce que je pense que l'émancipation, ou plutôt l'impossibilité d'émancipation de la femme en Iran, est un vrai sujet qui pouvait être traité en tant que tel avec beaucoup de. Voilà, une totale implication. Et il se sert de ce sujet, c'est un cheval de Troie en fait, pour parler d'autre chose qui est la censure, ça m'embarrasse.
Ah oui, mais alors moi, j'y viendrai, mais je pense pas du tout que ce soit son sujet, l'émancipation de la femme.
C'est bien mon problème.
Non, mais parce que vous pensez que c'est son sujet, alors je pense que c'est
non,
pas du tout
fait,
son sujet.
Non, il fait semblant.
Non, je crois
pas. Enfin,
bon.
Il fait semblant que ce soit
Allez,
son sujet.
Allez, Marie-Louise Sirache, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Plutôt du bien, parce que je trouve ça très intéressant, ce théâtre qui nous vient d'Iran, qui nous raconte un pays qu'on connaît mal ou peu. Et effectivement, les images que nous en avons, nous, je pense qu'elles sont totalement fausses et complètement à côté de la réalité. Et que le théâtre, tout d'un coup, parvient, comme le cinéma, à travers la fiction, parvient à nous approcher de un peu plus près de cette vérité, ou du moins à la cerner. Et je crois pas qu'il s'agisse ici effectivement de la question de l'émancipation de la femme, c'est plutôt une question de liberté. Parce que effectivement, ces femmes sont piégées parce que tout simplement parce que un garçon serait l'une d'elles aurait fait entrer un garçon dans le pensionnat, enfin ou pas, on ne saura jamais la vérité en plus. Mais cet interrogatoire là est mené par une des surveillantes qu'elle-même a menti, c'est-à-dire qu'on est sur le mensonge de tous côtés. Tout le monde ment à peu près, ou tout le monde dit la vérité, on ne sait jamais très bien. Et je trouve cette façon d'être sur l'ambiguïté, d'être sur ce fil-là et de le tenir jusqu'au bout plutôt intéressante. Et l'idée de la liberté, moi, elle surgit quand le fantôme de l'une d'elles revient et qu'il y a un dialogue qui s'installe et on voit le chemin qu'elle a parcouru, qu'elle est partie, qu'elle a quitté le pays, qu'elle a quitté l'Iran. Et à ce moment-là, ce rêve-là, pour elle, la liberté, c'est de pouvoir faire du vélo. Et elle fait du vélo, je ne sais plus si c'est au Danemark ou je ne sais pas quoi, en Suède. Et en même temps, pendant qu'elle fait du vélo en Suède, elle se rêve, elle se voit faire du vélo dans les rues de Téhéran. Et l'idée que, voilà, en vélo, que ces femmes-là, pour elles, le vélo, bah, ce soit, je ne sais pas, c'est une façon d'être libre, d'être... peut-être émancipée, mais en tout cas de laisser tomber tous ces interdits, de les dépasser. J'ai trouvé ça assez intéressant. Après, il y a tout un travail autour de l'image, qui est parfois fouillis. Alors, je trouve que par rapport à la version que nous avions vue à Avignon, c'est pas tout à fait au même endroit, notamment la présence de la surveillante. Que l'on découvre à Avignon, j'avais l'impression qu'on la découvrait à la toute fin. Et là, il l'éclaire dès le départ. Alors, c'est étonnant.
Elle est dans la salle, oui.
Elle est dans la salle, mais à Avignon aussi, mais on ne la voyait pas. Elle n'était pas du tout éclairée. Et ça m'a troublée, ça m'a gênée. Alors que je trouvais que sa première version était plus intéressante. C'est-à-dire qu'on entendait une voix qui venait d'on ne sait où, d'outre-tombe, enfin, de partout.
De
la mémoire. Et là, il l'incarne dès le départ. Alors, bon, là, j'étais un petit peu décontenancée. Mais bon, il y a des choses intéressantes et d'autres un peu, notamment l'usage de la caméra, parfois un petit peu abusif. Ou bon un peu bon, moins réussi. Disons.
Moins réussi. Alors Lucille Comeau, parole critique aussi ce soir, parce que vous avez vu aussi Ring.
Oui, alors moi je l'ai vu uniquement au Théâtre de la Bastille. Alors moi j'ai vu ni du tout un film sur la femme,
spectacle.
Oui, un spectacle. C'est drôle que je dise film, parce qu'il y a quand même quelque chose du cinéma. Ni un spectacle sur l'Iran d'ailleurs. Je trouve que c'est totalement des choses abstraites et que c'est un spectacle très très abstrait qui tient vraiment au dialogue, à la force du dialogue et ce que ça veut dire de parler et d'être pris et que la parole soit reprise dans une parole de l'autre et d'essayer d'imposer une vérité à quelqu'un d'autre. Et donc on est dans une sorte d'oscillation permanente, donc d'indécidabilité. On ne sait en effet jamais si c'est vrai, si le garçon a été introduit, s'il y a une des étudiantes qui ment, si la surveillante leur veut vraiment du mal ou alors qu'elle est plutôt bienveillante. Enfin, il y a vraiment, et ça c'est très fort parce que c'est gardé jusqu'à la fin. C'est un spectacle court qui met en œuvre quand même très peu de moyens parce que en effet il y a de la vidéo, mais c'est une vidéo pauvre, on peut dire, parce que c'est une petite webcam type GoPro, je pense, qu'elles ont sur le crâne et qu'elles se passent dans des escaliers. Donc il y a l'utilisation aussi d'un hors chant en dehors du théâtre. Donc c'est assez pauvre tout ça, il y a très peu de gestes, elles utilisent assez peu leur corps et elles maintiennent une tension à toutes les 3-4 qui est quand même assez impressionnante. Enfin, moi j'ai été saisie d'un bout à l'autre sans justement plus me poser la question ni de la condition féminine, ni de l'Iran, ni... j'avais oublié tout ça en fait très rapidement, quoi.
Oui, parce que moi, il me semble, mais on va revenir vers vous, Joanne, qu'il y a une très grande simplicité formelle. On l'a dit, alors, et carrément, la seule scénographie, ce sont les lumières et cet écran voilà, sur lequel sera projetée la vidéo, mais qu'on est effectivement ni dans une temporalité, ni dans une topographie définie. Enfin, il me semble que ça interroge toute la... Quel que soit le régime, j'ai envie de dire, un régime de surveillance, un régime qui ne donne pas de part à la liberté, un régime qui interroge sans cesse la notion de vérité et de mensonge, de dissimulation, et que ce pourrait être des hommes, ce sont des femmes. La question, c'est de savoir est-ce qu'on a transgressé un interdit ou pas. Ce sont des alliances, ce sont des manipulations. C'est aussi une question sur le temps, parce qu'effectivement, il y aura une projection dans un futur par rapport à cette scène primitive. Comment on reste coincé dans un événement qui est un événement traumatique d'une existence, ce moment-là où des destins se nouent. Mais moi, il me semble qu'il y a une portée beaucoup plus universelle, et je pense que d'ailleurs c'est aussi une réponse à effectivement ce dont vous parliez, à savoir la question de la censure. C'est-à-dire que si on parle ni de l'Iran, ni des femmes, ni de personnes précises, on parle de l'humanité en général, et que donc on peut pas être attaqué par ce régime-là puisque c'est universel. Et moi j'ai vraiment vu ça comme une histoire universelle de toutes les sociétés qui veulent surveiller. Joël Gaillot.
Alors, peut-être que ma réaction vient de ce que je regarde et je réfléchis à ce spectacle, vraiment d'un point de vue, je crois, pour ce que je peux en maîtriser les codes, féministe réellement. C'est-à-dire que ce sont des femmes voilées, donc ce n'est pas universel. Pour moi déjà, on n'est pas dans l'universel. Ce sont des femmes voilées, donc toutes les femmes ne sont pas voilées partout dans le monde. Vous dites ça pourrait être des hommes. Non, il se trouve que ce sont des femmes. C'est ça le réel du plateau, c'est que ce sont des femmes et pas des hommes. Et d'autre part, quand Marie-Josée vous dit que c'est une histoire de liberté et non pas d'émancipation des femmes, peut-être je suis pas assez claire, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a enfin l'occasion de parler de ça sur une scène de théâtre et qu'on a trouvé le moyen d'en parler aussi là-bas à Téhéran, quand il a créé la représentation, je trouve dommage que ce sujet, finalement, ce sujet de l'émancipation de la femme, se révèle être plus un alibi à parler de la censure qu'un sujet traité pour ceux qui laissaient trop précieux, c'est trop rare, ça arrive trop peu souvent, surtout vu par un homme iranien qui regarde les femmes iraniennes. Pour moi, on ne peut pas le décorréler de ce contexte-là de création. Donc, c'est ça que je regrette, c'est que tout à coup, on sent que ce sujet de l'émancipation de la femme, et moi j'y tiens à partir du moment où il est amené par lui. C'est pas moi qui l'ai amené, c'est lui qui l'amène. Je trouve que c'est dommage qu'il le laisse échapper quelque peu. Ça m'a embarrassée et je trouve que ça s'entend aussi dans la structure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je savais comment ça allait se résoudre. Alors j'ai pas prévu le vélo en Suède, mais je savais qu'il y aurait une histoire à un moment de femme qui mourrait parce qu'on sait pas trop si elle est partie faire du vélo ou si elle s'est suicidée. Les deux pistes sont évoquées. Et je savais que ça allait arriver à ça. À un moment donné, on voit le mécanisme de la structure. Et moi, contrairement à vous, Lucille, j'ai pas été prise en tout cas pas suffisamment, pour ne pouvoir m'abandonner qu'à ce que vous décrivez très bien. Ça n'a pas fonctionné comme ça pour moi. Mais il y a un côté très déceptif chez moi par rapport à ce, presque un désengagement de sa part.
Vraiment, je crois encore une fois que vous avez plaqué quelque chose qui était sans doute un désir que vous aviez de voir ce sujet traité là. Moi, je vous propose une transposition. On fait ça avec.
Plaque en fonction de ses grilles de lecture.
On fait
aussi.
Ça avec des GI américains sur une base militaire. Ce sera que des hommes. Ils auront des costumes et on pourra voir autre chose. Mais je pense que la pièce fonctionnera de la même façon, de façon aussi forte, parce que là elles sont voilées parce que ce sont des femmes de la société iranienne, et donc c'est un écrivain et un metteur en scène iranien qui propose cela. Mais je pense que ça, quand je parle d'universalité, je pense que c'est transposable dans différents endroits qui érigent l'ordre, la surveillance en mode de fonctionnement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Marie-José Sirache.
Oui. Non, mais moi, j'ai le sentiment là-dessus. Que comme Carlos Tamie, les femmes sont centrales dans cette pièce-là. C'est-à-dire que j'entends ce que vous dites. Effectivement, ça aurait pu être deux hommes, et le troisième qui mène l'interrogatoire. Mais d'abord, ils ne se seraient pas dit les mêmes choses, et pas de la même façon. Et je trouve qu'elles ont ce qui est assez beau, et c'est là où je trouve qu'il les met en avant, comme dans ce cinéma iranien. Elles sont à la fois, elles vivent dans un système qui les oppresse, et en même temps, elles sont suffisamment dignes et libres dans leur fort intérieur pour pouvoir tenir tête, et qu'elles portent le voile ou pas. Je trouve qu'elles sont fières, ces femmes-là, et qu'elles envoient un message extrêmement revigorant. C'est-à-dire que ce sont nos sœurs. Et donc tout à l'heure, je retire ce que j'ai dit, parce qu'effectivement, il est question d'émancipation quand même, là-dedans, et de femmes en résistance, qui l'air de rien, en jouant sur le mensonge, qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité, elles arrivent à s'en sortir, parce que c'est aussi ça, c'est l'idée de survivre quand même. Dans toutes ces contraintes, comment on continue de vivre, d'aimer, dans un pays qui n'est pas si simple, mais c'est vrai que ce n'est pas le seul. Il n'y a pas qu'en Iran où les femmes sont oppressées, hélas.
Bon, il faudrait passer plus de temps, parce que là, forcément, nous avons des propos un peu réducteurs. Moi, je trouve que c'est un très beau spectacle, en tout cas, que signe Amir Reza Kohestani. La chance qu'il y a, c'est qu'on peut le voir dans de nombreuses villes. Il est lui aussi au Théâtre de la Bastille jusqu'à mercredi, 19 octobre. On le verra ensuite à Montpellier, 15 et 16 novembre, à Pau, les 17 et 18, à Annecy, 25-26, en décembre, à Cherbourg, à Rouen, à Caen, et puis au mois de mars, ce sera à Arras, à Arles, à Besançon, à Poitiers, et ça finira au lieu unique, Grand Thé à Nantes, du 4 au 7 avril. Et avant de conclure cette émission, par un coup de fil passé à Dominique Pitoisé, le jeu de la dispute. Et d'abord un rappel sur le jeu de vendredi soir, Lucille Comeau.
Alors, la question était la suivante. Le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux est installé dans un hôtel particulier qui fut d'abord la maison d'un conseiller au Parlement. Avant de devenir un musée, il eut à la fin du 19e siècle une autre fonction. Laquelle ? Et la réponse est un hôtel de police et une prison.
On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition « Quoi de neuf au Moyen-Âge ?» et jusqu'au 6 août à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. La question ?
Alors, question histoire. On fait souvent de l'année 1492 et de la découverte des Amériques la fin du Moyen-Âge, mais quelle serait la date de début de cette période ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute.
Hello.
Et ce soir, le coup de fil va à Bonlieu, scène nationale d'Annecy. Dominique Pitoisé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous allez créer le 2 novembre prochain à Bonlieu la résistible ascension d'Arturo VIII. C'est un texte de Bertolt Brecht, une pièce écrite en exil en 1941. L'histoire d'un homme brutal qui veut prendre à Chicago le contrôle du marché des légumes, une fable sur le pouvoir et sur le fascisme. Qu'est-ce qui a déclenché à vous votre désir de monter cette pièce-là ?
Clairement, déjà le fait de continuer l'aventure avec Philippe Torreton, en essayant après le beau voyage de Cyrano de Bergerac, de lui faire jouer la part obscure de la force, le côté obscur de la force, à savoir un personnage qui génère un peu moins d'empathie. J'étais clairement allé du côté de Richard III, mais il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Et puis finalement, le contexte de l'élection présidentielle m'a amené à me repencher sur cette pièce de 41 de Brecht et puis la version 55 et la version adaptée par Heiner Müller, qui est à ce jour la seule adaptation qui n'est pas revendiquée en tant que telle, mais qui est la seule version portée à la scène avec des coupures clairement revendiquées, puisque, comme vous le savez certainement, Brecht n'a jamais mis en scène sa pièce. Alors, il y a un double effet de contextualisation, parce que le Chicago années 20, Al Capone, n'était pas vraiment d'emblée la chose qui retenait mon attention. C'est plutôt l'histoire d'une sale maladie qui m'a travaillé, à savoir comment un parasite prospère aux dépens d'un grand corps malade qui est une société de la finance. Voilà, donc vous aurez compris tout de suite que la résonance est directe, et quand on amenuise un peu l'effet Chicago, l'effet mafia, finalement, en le recontextualisant aujourd'hui, on se rend compte que la pièce trouve de vraies résonances. Alors les acteurs m'ont demandé, mais premier jour de répétition, mais pourquoi tu veux faire ça ? Alors j'étais presque embarrassé de répondre très sincèrement, parce que je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Voilà, c'est pas une pièce à thèse, pour moi c'est juste un vrai théâtre post-brechtien, à savoir l'art du constat, mais cette fois-ci, en essayant de trahir un peu Brecht, c'est-à-dire de ne pas le mettre sur le tréteau de la farce satirique, mais au contraire de le prendre très au sérieux et d'essayer de jouer une pièce quasiment réaliste.
Alors vous nous avez donné quelques éléments en nous disant que vous avez amenuisé entre guillemets le côté Chicago. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments du, non pas forcément du dispositif de la mise en scène, mais au moins quelques images que vous aviez en tête quand vous avez pensé la scénographie, Dominique Pitoiset ?
Elle est passée par des stades très différents, la scénographie. Par exemple, un des derniers stades, c'était le bureau présidentiel de l'Élysée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été très travaillé par l'idée de résistible ascension. Pas tant d'Arturo Oui, pas tant du fameux Si de Mussolini qui a amené le Oui de Brecht. Enfin, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais et de l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Donc, avec Heiner Müller, nous avons ôté tous les cartons intermédiaires expliquant l'arrivée au pouvoir d'Hitler et de ses collègues gangsters, pour finalement recoller en fait à une pièce qui, recontextualisée, trouvait de vraies résonances pour nous. Et ce projet élyséen a touché rapidement ses limites. Et quand on m'a posé la question de « mais alors que serait l'espace ?», je dis « le siège d'une grande banque, la grande salle de réunion d'une grande banque, puis des coffres-forts, et puis peut-être comment ces coffres-forts, finalement ce monde de la finance s'avère être une morgue, je sais pas. Alors ça semble pas très glamour ce truc, mais en réalité, ces effets de lecture très simples, cette approche, je dirais presque méthodologique de l'œuvre, réussit à bien redéfinir la cible.
Qu'est-ce que vous avez donné à Philippe Torreton comme image ou comme même comme exemple, comme modèle, je ne sais pas, existant peut-être, oui, pour interpréter ce personnage d'Arturo Oui ?
Ben malheureusement, il y en a tellement que je dirais. C'est Monsieur Tout-le-Monde qui pourrait profiter d'occasions qui lui sont offertes pour grandir. Voilà. Et en fait, c'est comme un jeu. Ça s'appelle le stop ou encore. Et on se rend compte qu'en fait, beaucoup de personnes buzzent au moment du encore. Et qu'il y a très peu de monde qui appuie sur le buzz quand il s'agit du stop. Mais encore une fois, mon projet, c'est moi, vraiment moi, sans moi, ça. Moi, je veux buzzer sur le stop, et vite fait.
Merci beaucoup. Merci Dominique Pitoiset. La résistible ascension d'Arturo Oui se sera donc créée le 2 novembre prochain à Bonlieu, scène nationale d'Annecy, dont vous êtes artiste associé pour la troisième année consécutive. Ce sera jusqu'au 6 à Annecy, et puis le spectacle sera en tournée dans toute la France. Je cite quelques dates de l'automne, du 10 au 27 novembre à Sceaux, à Quimper du 1er au 3 décembre, à Saint-Quentin-en-Yvelines du 7 au 10, et puis à Chalon, à Valenciennes, etc. Plein de dates
partout. N'oubliez pas Dijon, dont je suis également un artiste associé et qui est la ville qui soutient ma compagnie.
On mettra toutes les dates sur le site. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Marie-Josée Sirach, Joël Gaillot, Lucille Como, d'y avoir pris part avec moi. Merci à l'équipe qui prépare nos émissions. Virginie Ledio, Josué Morel, Boris Pino, Flora Isidore. Prise de son assurée ce soir par Jean Frédéric. Réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma en compagnie de Muriel Giloudet, Thierry Chaise et Antoine Guillot. À notre affiche, Ma vie de courgette, Claude Barras. Willy Ier de Ludovic Boukerma, Zoran Boukerma, Marielle Gauthier et Hugo P. Thomas. Apnée de Jean-Christophe Meurice. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.